Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors le générique de Nous n'avons qu'une terre n'a pas changé, mais écoutez. Vous venez d'entendre le chant d'une baleine. Pas celui qui est enregistré et aménagé pour vous endormir. Non, celui d'une baleine qui appelle ses petits. Alors, Aurore Morin est avec nous aujourd'hui pour en parler. Aurore, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dirigez IFO et les baleines, donc entre autres, font partie des animaux que vous aidez à protéger. Alors, vous êtes chargée de campagne. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est IFO et quel est votre rôle.
Alors, tout à fait. Donc, moi, je travaille donc pour AIFO. On peut dire IFO aussi. Ça veut dire, en fait, c'est un sigle qui veut dire le Fonds international pour la protection des animaux. C'est une ONG qui a été fondée en 1969, qui protège les animaux et leurs habitats. Et donc, du coup, nous, effectivement, notre mission, c'est vraiment de venir mettre en place des solutions qui vont être durables et qui soient bénéfiques autant aux populations animales qu'aux populations humaines. Et donc, on travaille pour protéger le monde sous-marin, entre autres, depuis plusieurs décennies maintenant.
Alors, vous êtes actuellement, votre intérêt pour les baleines est un peu particulier.
Alors, oui, effectivement, pas particulier, oui, effectivement, notre intérêt pour les baleines, c'est qu'on souhaite protéger l'ensemble de la biodiversité marine, mais en passant par les baleines en priorité, parce que ça reste une espèce parapluie, hein, c'est la plus grande espèce qui vit sous l'eau. Et donc, en protégeant les baleines, on protège aussi l'ensemble de la faune marine. Et donc, nous, on a une ONG qui travaille sur plusieurs menaces qui vont toucher les animaux marins. Et donc notamment la pollution sonore sous-marine, également les risques de collision qui peuvent exister entre les baleines et les navires. Et historiquement, on a aussi beaucoup travaillé contre la chasse commerciale à la baleine.
Oui, alors effectivement, avant de parler des actions qui sont en cours actuellement, parlons un peu d'une des plus anciennes, finalement. Je crois que c'est la plus ancienne campagne animalière de l'histoire de l'environnement, la chasse à la baleine. C'est celle qui va donner naissance plus tard à Greenpeace, etc.
Oui, 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 tout à fait. Il y a eu celle-ci qui est effectivement une des plus anciennes par rapport aux mammifères marins. Et on peut également noter celle qui, en tout cas pour AIFO, a été à l'origine de la création de notre ONG, qui est également celle de la lutte contre la chasse commerciale aux bébés phoques, notamment au Canada.
Alors,
c'était la campagne principale sur laquelle on a été créé.
Donc ça, ce sont des campagnes, j'ai un peu envie de dire, historiques, et sur lesquelles, finalement, on a gagné, et enfin, le monde de l'environnement a gagné. Et puis, aujourd'hui, on s'aperçoit, plus de 50 ans, presque 60 ans après, qu'on commence à remettre en question un certain nombre de ces victoires. Alors, revenons à la chasse à la baleine. J'ai vu que certains pays essaient de réouvrir cette chasse.
Tout à fait. Il faut savoir que la chasse commerciale à la baleine, c'est interdit dans le monde entier depuis 1986, mais qu'elle continue quand même dans 3 pays, que sont notamment l'Islande, la Norvège et le Japon. Alors, c'est des pays, en fait, qui ont manifesté qui ont refusé, en fait, de signer le moratoire international qui existe et qui vient interdire cette chasse commerciale à la baleine et qui ont décidé de poursuivre cette activité-là. Alors, donc, AIFO travaille principalement, notamment en Islande. On a cru à une très bonne nouvelle cet été puisque la ministre islandaise de la pêche avait décidé de suspendre la chasse commerciale à la baleine. Donc on s'est dit, chouette, c'est la fin, enfin, de la chasse islandaise. Et malheureusement, en fait, cette chasse a été réautorisée à partir de septembre dernier. Alors, elle a été réautorisée pour des
raisons. Et tout cela à cause d'un chasseur, d'une personne.
Exactement, tout à fait, à cause d'une compagnie qui est une compagnie en fait de chasse baleinière qui souhaite continuer à faire faire cette activité-là pour des raisons économiques. Il faut savoir que ça reste quand même si la chasse à la base avait été suspendue par la ministre islandaise de la pêche, c'est parce qu'il y avait eu une surveillance étroite de la part des autorités vétérinaires gouvernementales qui avait été menée et qui avait conclu que les activités baleinières étaient excessivement cruelles. Et donc la chasse a été réautorisée là, à partir de septembre dans des conditions qui sont excessivement strictes maintenant, avec un suivi, notamment des images vidéo, des opérations, etc., qui doivent de manière à obliger la chasse à se faire dans des conditions qui soient les plus respectueuses, on va dire, du bien-être animal. Et je mets ça entre guillemets parce que pour nous, c'est évidemment...
C'est un recul de toute façon.
Ça peut être respectueux du bien-être animal.
Puis c'est un recul par rapport à tout ce qui avait été obtenu.
Tout à fait. Ouais, c'est clairement un recul. Effectivement, on espère que c'est uniquement temporaire et que ça va de nouveau être suspendu et ce de manière définitive.
Alors nous, en Méditerranée, puisque là, on vous appelle depuis Montpellier, en Méditerranée, on a la chance d'avoir, on a très très rapidement mis en pratique la protection des baleines. Alors sans doute pas forcément à cause de l'Occitanie, mais sans doute beaucoup plus à cause de l'influence de la principauté de Monaco. On connaît l'intérêt qui est porté par Monaco aux animaux marins et à la mer en général. Donc, on a ici un sanctuaire qu'on appelle le sanctuaire Pélagos et qui est normalement fait pour protéger qui est une aire marine protégée sur les cétacés. Alors, vous en pensez quoi de ce sanctuaire ?
Alors, le sanctuaire Pélagos, c'est effectivement une très, très bonne initiative. À la base, ça a été... Ça c'est parti d'un accord multilatéral qui a été passé entre la France, vous avez cité Monaco aussi, mais également entre l'Italie, pour couvrir une très grande zone justement qui a vocation à en fait être dédiée à la protection des mammifères marins et de leurs habitats. C'est un sanctuaire qui est entré en vigueur en 2002. Donc, du coup, ça fait quand même une paire d'années que c'est en vigueur et c'est une très bonne chose puisque ça a pour but de venir promouvoir des actions, des mesures pour la protection des cétacés et de leurs habitats contre en fait toutes les causes possibles de perturbations d'origine humaine.
Mais en même temps, aujourd'hui, on sait que plusieurs aires marines protégées sont à l'ordre du jour dans toutes les négociations océans qui démarrent. Malgré tout, avec un peu de retard, est-ce que Pélagos reste une aire marine vraiment protégée ? Ou est-ce que ça fait partie de ces aires marines qu'on dénonce un peu comme étant des aires marines de papier ?
Alors, je dirais quand même que le sanctuaire Pélagos est vraiment une très bonne initiative. Elle reste relativement une zone relativement protégée quand même, puisqu'il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour venir encadrer certaines activités humaines de manière à limiter leurs impacts sur les animaux marins. Mais c'est vrai qu'on déplore quand même un manque de mesures un petit peu plus restrictives, notamment par exemple, encore plus restreindre les activités humaines en interdisant certaines choses ou en venant par exemple réduire la vitesse des navires, en obligeant les navires qui circulent dans cette zone à réduire leur vitesse. Voilà, il y a certaines choses qui pourraient être faites en plus, c'est sûr, mais ça reste quand même une très bonne base de protection pour les espèces marines qui vivent dans cette zone.
Alors, on en arrive un peu au sujet de l'émission d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire essayer d'avoir une action sur les navires qui traversent. Alors, d'abord, deux mots sur la Méditerranée. On sait que c'est une des zones où le transport est un des plus importants, enfin, les trafics liés au transport, que ce soit ceux des vacanciers ou que ce soit ceux des transports passant par le canal de Suez et le canal de Gibraltar. Enfin, c'est une des zones les plus marquées par le transport. Donc, on a une aire fortement menacée.
Exactement, tout à fait. Le trafic maritime est excessivement important dans la région. On est sur 220 000 navires qui naviguent par an en Méditerranée, notamment à des vitesses qui peuvent aller entre 14 et 20 nœuds pour les navires marchands et jusqu'à 35 nœuds pour les navires à grande vitesse, notamment les ferries, hein, ceux qui font les liaisons, comme vous le dites, vous me disiez, entre les transports de passagers. Donc c'est une zone où c'est vraiment une grosse autoroute maritime. Et le souci, c'est que dans cette autoroute maritime vit aussi beaucoup d'animaux marins. On a notamment deux sous-populations de cétacés qui sont dont c'est leur habitat, un habitat critique pour eux, hein, les rorquals communs et les cachalots. Donc c'est deux espèces de baleines qui sont aujourd'hui menacées, classées comme menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. On sait notamment que récemment, la population de rorquals communs de Méditerranée a été évaluée à seulement 1800 adultes. Donc ça reste très très peu. Donc du coup, voilà, on se retrouve face à des animaux qui doivent cohabiter, de manière contrainte et forcée, avec de nombreux navires. Qui viennent.
Vous venez de lancer donc une action sur au moins le ralentissement de ces navires, et vous avez des recommandations de la Commission européenne à ce sujet, donc ça fait partie de vos dernières campagnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Tout à fait. Alors, tout récemment, on a effectivement lancé une campagne qui s'appelle la campagne des obtenir des vitesses bleues. Donc, des vitesses bleues, ça viserait en fait à plafonner la vitesse des navires existants à 75% de leur vitesse de conception. Ce qui veut dire, ça équivaut à une réduction de vitesse de 5 à 10% en fonction du type de navire. Et ça, on aimerait que ça devienne une réalité, puisqu'aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, malheureusement. Et on aimerait que ça devienne une obligation, en fait, comme condition d'entrée pour tous les navires dans les ports de l'Union européenne. Donc c'est pour ça qu'on est en contact avec les institutions européennes pour essayer de rendre cette mesure une réalité, et une mesure surtout qui soit contraignante, c'est-à-dire que l'ensemble des navires soit obligé de l'appliquer. Et cette réduction de vitesse aurait un triple bénéfice environnemental, puisqu'en fait, elle viendrait réduire la pollution sonore qui est créée par les navires, donc le bruit sous-marin, mais également le risque de collision qui peut exister entre les navires et les cétacés, comme j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Et puis également, troisième avantage, c'est que ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par les navires.
Alors, on va maintenant rejoindre Nelly Racin, qui représente les armateurs de France, pour savoir un peu ce qu'elle pense de cette action et de cette campagne. Mais auparavant, je voudrais vous faire écouter quelques petits sonores. Ces sonores ont été mis en place par ce qu'on appelle les oreilles d'or. Sachez que les oreilles d'or travaillent pour l'armée. Ce sont des marins qui sont spécifiquement formés à écouter les bruits sous-marins, parce qu'on est loin de l'époque où Cousteau parlait d'un monde sous-marin silencieux. Ce monde sous-marin est devenu très bruyant. Et une oreille d'or, donc, va donner à un capitaine de navire un ordre en lui disant, voilà, nous entendons telle chose, nous entendons un animal, nous entendons un sous-marin, nous entendons telle ou telle chose. Et à ce moment-là, le capitaine du navire, sur le conseil de son oreille d'or, eh bien, va prendre la direction et va faire en sorte d'éviter ce qu'il doit éviter et conduire son navire. Ce que vous venez d'entendre là, eh bien, c'est le bruit d'un dauphin. Et là, eh bien, c'est le bruit d'un pétrolier. Incroyable, non ? Eh bien, c'est un iceberg que vous venez d'entendre. Là, bien sûr, vous les avez reconnus. Ce sont les cachalots. Que de boucans, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les chaluts. Et là, il y en a des centaines. Et bien sûr, là, c'est notre protégé. Vous reconnaissez le chant de la baleine? Que peut-elle faire contre tout ce que nous venons d'entendre? Là, elle appelle ses petits. Nelly Grassin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes représentante, vous représentez à cette antenne les armateurs de France. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce que sont les armateurs de France?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis Nelly Grassin, je suis responsable d'environnement pour Armateurs de France. C'est l'organisation professionnelle qui représente les compagnies maritimes françaises de transport et de service, c'est-à-dire les porte-conteneurs, les pétroliers, des vraquiers, des navires océanographiques, des ferries, des navires de croisière. On a en tout 80 compagnies qui sont adhérentes, ça représente à peu près 1400 navires, mais c'est une toute petite portion par rapport à la flotte mondiale qui représente, elle, plutôt autour de 75 1000 navires et ça représente surtout 90% des marchandises qui sont transportées aujourd'hui par la mer.
Alors on vient d'écouter donc une série de bruits, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais vous les connaissez forcément. Ce sont les fameux bruits écoutés par les oreilles d'or de l'armée. Donc on se rend compte à cette écoute que finalement les navires font du bruit, mais il n'y a pas que. Il y a également le bruit du monde sous-marin lui-même. Donc on n'a pas été jusqu'à écouter les crevettes, mais j'ai été frappée d'entendre que certains animaux marins faisaient presque autant de bruit qu'un chalut.
Ah oui.
Alors, vous êtes donc vous êtes à l'écoute de ces bruits, je suppose, aux armateurs de France?
Alors, on est surtout dans l'idée d'essayer de réduire ces bruits. On sait bien que le transport maritime a des impacts, produit du bruit et a des impacts comme ça sur la faune marine. Ça ne fait plus aucun doute et il est aujourd'hui vraiment crucial d'agir pour les réduire. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est vraiment un sujet complexe pour lequel il subsiste encore des inconnus et des impacts spécifiques. Ça dépend de plusieurs paramètres tels que la source du bruit, la signature acoustique, la durée d'émission, bref, toutes les caractéristiques du milieu sous-marin dans lequel le bruit se propage, mais aussi l'espèce concernée. Et finalement, de cette complexité découle aussi beaucoup d'incertitudes sur les éventuelles mesures et réglementations à adopter, ainsi que les solutions techniques à mettre en œuvre pour réduire
alors justement,
le sous-marin des navires.
Qu'est-ce qu'on pense faire ou qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour effectivement réduire ces bruits?
Alors, beaucoup de choses sont à l'étude et sont déjà mises en place chez les armateurs. Tout dépend si on parle d'un navire qui est déjà existant, qui est en mer, ou si c'est une construction neuve.
Bon, on ne va pas parler des constructions neuves. Je pense que les constructions neuves, on intégrera, bien sûr, ce qu'en dira la Commission européenne. Mais les constructions existantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut transformer quelque chose?
Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de quantifier la signature acoustique du navire pour définir quelles sont les sources du bruit. Le bruit provient principalement des hélices qui forment dans leur rotation des bulles d'air et dont la désintégration crée du bruit. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. Le bruit provient aussi du frottement de la coque du navire dans l'eau, le bruit des machines. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les armateurs français nettoient très régulièrement leur coque. En fait, réaliser la signature acoustique d'un navire est aussi un exercice très complexe à mener. Donc voilà, c'est une première chose qu'on va faire et en plus, on va regarder
la
modification du navire on peut mettre en place pour améliorer cette signature. Et ça peut être avec des hélices innovantes, Quand on va beaucoup plus loin, ça peut être sur l'isolement des machines, l'amortissement des vibrations, etc. Mais ça, c'est sûr que c'est plus facile à mettre en place que dès la construction du navire.
Mais là, vous êtes en train de nous dire que vous allez recommencer finalement les études qui ont été menées par l'armée, puisque vous allez essayer de retravailler sur la signature acoustique du navire.
Chaque navire est très, très différent. On ne refait pas du tout ce qu'a fait l'armée, mais si on veut réduire le bruit d'un navire, il faut savoir d'où provient sa source très précisément. Tous les navires sont différents et on ne peut pas imaginer que ce qu'a fait l'armée va correspondre au navire marchand.
Très bien. Alors, est-ce que... Oui, bien sûr, ça correspond davantage au sonar d'un sous-marin, où ça correspond beaucoup plus. Mais on a vu aussi qu'ils avaient quand même travaillé aussi bien sur les chaluts que sur les pétroliers. Donc ça fait quand même partie des bateaux dont vous avez la responsabilité.
Alors, les chaluts, non, on représente uniquement les navires marchands de transport et de service, comme je disais tout à l'heure.
Bien. Alors, est-ce que vous envisagez, dans le cadre donc de ce travail sur les vitesses bleues, de réduire, d'aller jusqu'à réduire la vitesse ou même à modifier certaines routes?
Alors, la réduction de la vitesse des navires, oui, c'est une réponse pour réduire le bruit sous-marin. Mais pas que, parce qu'il existe des navires qui sont beaucoup plus silencieux que d'autres en dehors de la vitesse, et ce serait assez injuste de les pénaliser. De plus, les activités du transport maritime se jouent aujourd'hui dans un contexte de compétitivité internationale, et les armateurs seuls ne pourront pas avoir de telles initiatives de réduction de la vitesse au risque de perdre des parts de marché, parce que les marchandises ne sont pas livrées dans les temps. Et donc, s'il devait y avoir une réglementation, ça serait... vraiment une réglementation internationale qui imposerait la réduction d'un navire à tout le monde et en prenant en compte les particularités des diverses activités, des divers types de navires. On demande vraiment à ce que ce soit une réglementation qui soit faite en co-construction avec l'industrie maritime pour qu'on s'assure de sa robustesse et de la pertinence de la mise en œuvre. Après, s'agissant de la modification des itinéraires, pareil, c'est une solution et c'est déjà des choses qu'on fait dans des zones sensibles, notamment dans la fosse hélénique au large de la Grèce ou au sud du Sri Lanka, qui sont des zones en effet à protéger pour les mammifères marins.
C'est-à-dire là où il y a des aires marines protégées?
Alors je ne sais plus si c'est des aires marines protégées, mais on a été très sollicités par des ONG pour nous demander à dérouter nos navires dans ces zones pour protéger les espèces.
Mais ça sera autre chose qu'un problème d'ONG, les aires marines protégées. Ça va être une réglementation internationale.
Oui, c'est pour ça que ce dont je vous parlais, c'était des zones où les armateurs français étaient en avance sur la réglementation et allaient un petit peu plus loin justement pour éviter tout ce qui était bruit sous-marin et collision avec les cétacés dans ces zones-là. Après, évidemment, sur les aires marines protégées, il y a un travail à faire avec les administrations, la France en l'occurrence pour les zones qui la concernent, pour voir les mesures à mettre en place pour protéger la faune marine.
Merci Nelly Grassin, et je pense que de toute façon on aura l'occasion de se reparler sur cette antenne, puisque c'est une opération, le Blue Speeds, qui commence simplement aujourd'hui. Merci.
Merci à vous.
Alors Aurore, moi j'ai l'impression en fait que vous avez beaucoup à faire.
Oui, alors oui, un petit peu effectivement. Oui, mais c'est en grande partie, c'est une partie en tout cas du travail qu'Aifour réalise, c'est de discuter avec les compagnies de transport maritime pour leur faire voir en fait les bénéfices qu'ils auraient eux à appliquer la mesure qu'on leur demande en fait de réduire leur vitesse.
Mais pour l'instant, j'ai un peu quand même l'impression que la dimension économique prend largement le pas sur la dimension écologique.
Alors malheureusement, ouais, effectivement, l'argent reste le nerf de la guerre, hein, c'est bien connu. Donc, mais on essaye quand même, nous on a notamment réalisé une étude économique qui montre les bénéfices économiques d'une réduction de la vitesse des navires telle que celle qu'on demande en fait au sein des eaux européennes. Et ça monte notamment à quand même ça monterait à 3,4 milliards à 4,5 milliards d'euros d'économies par an par rapport à tout ce qui serait des économies sur les frais de carburant. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant économiquement parlant. Mais voilà, on est face à une industrie qui est quand même excessivement importante. Donc on a beaucoup de travail de plaidoyer à faire encore.
Importante et assez sûre d'elle.
Oui, tout à fait.
Bon, enfin, j'ai pas envie d'en rajouter, mais j'ai trouvé que quand même, on recommençait peut-être, on repartait de très très loin sur cette opération et que vous allez y avoir de longues années de lutte.
Bah alors, j'espère que ça se chiffrera pas en moins d'années possible, en tout cas, mais on sait que de notre côté, on bénéficie du soutien des autorités européennes sur le sujet et des institutions européennes. On sait également que le gouvernement français est assez, nous prête une oreille attentive par rapport aux demandes qu'on fait. Donc, au bout d'un moment, je pense que le secteur du transport maritime devra se conformer en fait à ces exigences-là qui viendront très certainement du pouvoir réglementaire.
Mais on sent quand même que cette opération ne peut se gérer qu'à échelle internationale, encore une fois. Et est-ce que vous venez d'évoquer le gouvernement français, l'Union européenne, est-ce que ce sera suffisant?
Alors non, mais c'est effectivement ce sera uniquement une première étape. Nous, c'est effectivement notre objectif, c'est d'avoir cette réduction de vitesse qui soit applicable à l'échelle du globe entier, en passant notamment par l'Organisation maritime internationale. Mais on a voulu commencer avec une première étape au niveau européen, de manière à pouvoir rendre ça effectif dans une première zone et ensuite à pouvoir l'agrandir et que ça concerne tous les océans du monde.
Bien, eh bien écoutez, je vous remercie Aurore et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer à mener ces protections et à échelle du monde. Et puis on va se quitter en écoutant encore une fois le chant des baleines parce qu'on ne s'en lâche jamais.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.